Vous retrouvez toutes les musiques de l'océan Indien sur MOI, www Média de l'océan Indien. C'est ma radio à moi.
Vous êtes en compagnie de Patrick dans Ciné Forever, l'émission sur le cinéma. Hello everybody, bienvenue dans Ciné Forever, l'émission de cinéma sur MOI FM. Et aujourd'hui, c'est une émission spéciale, puisque nous avons des invités. Virtual Revolution, et mon ami William va nous présenter nos trois invités, pas un, pas deux, mais trois. Vas-y William.
Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'émission Ciné Forever. Alors ce soir, ce sont les invités du Virtual Revolution, un film indépendant de science-fiction réalisé par Guy Roger Duvert. Bonsoir Zoé Coafas, bonsoir Maximilien Poulain, bonsoir Yoren Egele.
Bonsoir.
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 Alors avant de commencer la présentation de ce film et de ses trois invités, je vais vous lire les news.
D'accord.
Alors les news, je vais commencer par Logan, puisque j'avais commencé justement la semaine dernière pour vous dire que Logan sera donc l'occasion d'un western moderne et futuriste avec un esprit tyran du côté de Old Man Logan, un comics dans lequel un Wolverine âgé évolue dans un futur ultra violent. On retrouve un héros fatigué et usé dont le pouvoir de guérison montre des signes de faiblesse. Hugh Jackman incarne le mutant des X-Men pour la dernière fois de sa carrière et offre un beau départ pour l'occasion, pour ouvrir la voie à une nouvelle génération. Voilà, je n'en dis pas plus, vous verrez le film à sa sortie.
De toute façon, il a un cancer, donc il ne peut pas tenir le rôle très très longtemps.
Oh, le pauvre, on vient d'apprendre qu'il a un cancer.
Ouais.
Ah, bon. Ah,
vas-y, William, s'il te plaît.
Alors, ensuite, il y a Ghost in the Shell qui est très attendu aussi de la part des fans. Donc, je vais vous lire le postulat du départ, donc le synopsis. Si quelqu'un arrive à modifier votre mémoire, quelles sont les conséquences sur votre conscience de vous-même ? Voilà, ça c'est le postulat de départ pour l'adaptation au cinéma du manga japonais. Dans ce long métrage, Scarlett Johansson, qui incarne le cyborg Major, qui lutte contre le cyberterrorisme, c'est une affaire en particulier qui va déclencher une véritable crise d'identité pour le personnage et enclencher une série de questions sur ce que c'est que d'être un être humain. Grande surprise, Bohemian Rhapsody, Patrick,
oui,
et mes chers
invités. Le fameux projet...
Alors c'est le biopic qui est consacré en fait à Freddie Mercury, le chanteur du groupe Queen, voilà, célèbre groupe.
Tout à fait, c'est un autre acteur qui devait...
Alors, rattaché durant quelques mois à Sacha Baron Cohen, qu'on connaît pour ses frasques assez comiques en général, là le film s'est finalement pas fait du tout et il est tombé dans l'oubli. Et à la grande surprise des studios, la Fox ressort le projet et c'est Bryan Singer, le réalisateur des X-Men, c'est vraiment une grande surprise, qui va faire le film. Et l'autre surprise, eh bien, c'est l'acteur de Mr. Robot, Rami Malek, donc, qui va se glisser dans la peau du personnage du charismatique Freddie Mercury. Donc un grand projet encore à venir, qu'on attend tous. Pour conclure ces nouvelles, je vais vous parler de The Irishman. Irishman, c'est le 25e film de fiction de Martin Scorsese. Et c'est le retour du cinéaste au film de gangster et qui a pour ambition folle de réunir, attention, un casting d'enfer. Robert De Niro, Al Pacino et Joe Pesci. Que du bonheur.
Comme d'habitude. Hein,
voilà.
On va dire chez Monsieur Scorsese.
Donc du coup, c'est un projet qui est cher en fait à notre ami Martin Scorsese. Il rêve de les retrouver depuis Casino, Les Affranchis, Raging Bull. Ce sont des films qui nous ont fait rêver. On s'est tous mis dans la peau de ces personnages-là. Et Robert De Niro disait que, étant donné que c'est un film qui va s'étendre sur une longue période, il y a une équipe de FX qui va se charger de lui arranger un petit peu le visage. Voilà Patrick, pour les news c'est terminé. La semaine prochaine on va parler entre autres de la nouvelle adaptation live par Disney de La Belle et la Bête avec Emma Watson et Luke Evans, l'actuel Dracula Untold.
Musique maestro. Bienvenue dans Ciné Forever. Nous allons parler de cinéma et de l'actualité, comme chaque semaine. Donc cette semaine, il y a deux gros mal à bord, on va dire. Inferno. Et puis Tu ne tueras point, le film de Mel Gibson, qui est un grand, pour moi, un grand metteur en scène. Peut-être mieux encore qu'acteur. Mais bon, c'est un avis personnel. Donc dans l'actualité, nous avons aussi Mademoiselle, qu'on n'a pas pu parler la semaine dernière. Donc notre invité va nous en parler, s'il te plaît.
Ah d'accord, je viens de comprendre ce que tu étais en train de me dire, pardon. Ok.
Qu'est-ce que tu en as pensé alors?
Qu'est-ce que j'en ai pensé? Moi j'ai trouvé que c'était un film qui était dans la lignée de ce que fait le réalisateur, hein, avec tout ce qu'on a pu voir.
Oui, le réalisateur d'Old Boy.
Voilà. Je trouve que c'est un film qui est super intéressant, qui tient du début jusqu'à la fin. Bon, qui parle finalement un peu de choses dont on a un peu déjà vu dans le cinéma français, notamment voilà cette histoire un peu lesbienne, etc. Mais cela dit, là, c'est dans un contexte complètement autre en Corée, avec un espèce de tortionnaire. Enfin, vraiment. Enfin, moi, je vous le conseille. Je trouve que c'est vraiment un très bon film qui vaut la peine d'être vu.
Parce qu'à Cannes, quand il est passé, vas-y.
Oui, c'est ça.
D'accord. À Cannes, quand il est passé, il était un peu sulfureux, les projections et tout ça. On en parlait beaucoup. Parce que c'est un sujet toujours, je dis pas tabou, mais un sujet qu'on aborde très peu au cinéma.
Oui, mais après, en même temps, j'ai l'impression que le public français a un peu peut-être plus l'habitude de ce genre de film, je sais pas.
Je sais pas, le public français, pourtant, aurait pu l'aider comme étant le plus difficile de la planète, puisqu'il y a certains films américains qui sortent d'abord en France. Mmh. Pour voir quelle est la réaction du public français avant de sortir aux États-Unis. Donc,
c'est intéressant.
Comme Supergirl et d'autres films comme ça.
Ouais.
C'est ça. C'est vrai que Supergirl, c'est super sulfureux.
Non, mais parce que le truc, c'est qu'aux États-Unis, c'est là-bas que ça doit se faire le chiffre d'affaires et pas trop dans un peu dans les autres pays, mais surtout les États-Unis, c'est énorme. Et au niveau du box-office, vous devez savoir que c'est en fait Doctor Strange, et c'est pas une surprise, qui est en tête du box-office. Bon, il y a les trolls pour les enfants, évidemment, pendant les vacances de la Toussaint. Et puis, ensuite, il y a pas mal de. Il y a Brise de Nice, bien sûr, le 3, dont on dit. Il fait un beau chiffre, mais on dit que c'est un peu.
Je ne l'ai pas vu.
Ah, un peu con quoi. Donc, tout simplement, avec des réflexions un peu bas niveau, tout simplement. Même le film marche, et tant mieux pour le film. Hein. Mais bon. Voilà pour la France, en gros. Et puis, pour les États-Unis, c'est pratiquement la même chose. Avec toujours Dr. Strange en tête, les trolls, et Tu ne tueras point. Inferno ne marche pas du tout aux États-Unis.
Ah ouais ?
Une vraie cata. Donc, je crois qu'il a 25 à 30 millions au bout de deux semaines.
En tout cas, Tu ne tueras point, ça a l'air vachement bien. Oui. Celui-là, j'ai vraiment envie de le voir.
L'abondance est assez géniale. Ouais. Voilà, nous avons fait un peu le tour de l'actualité. Nous allons bientôt aborder le sujet de l'émission, c'est-à-dire bientôt la révolution. Ouais. Mon ami Abou, tu peux nous mettre un peu de musique, s'il te plaît? Vous venez d'écouter Blade Runner de Monsieur Vangelis, vous l'avez tous reconnu à mon avis. Nous allons passer à un film que nous attendions tous. Et ils sont tous les trois autour du micro pour nous en parler pendant bien trois quarts d'heure. Donc ça va être passionnant. Maximilien, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire du film ? S'il te plaît.
Pourquoi moi ?
Parce que je sais que t'aimes bien.
Ok, alors ça se passe à Néo-Paris en 2047, c'est donc le Paris du futur qui est devenu une gigantesque mégalopole. Et nous sommes dans un monde où 75% de la population mondiale vit connectée quasiment 24 heures sur 24 dans des réalités virtuelles. Eux, on les appelle les connectés. Il y a deux autres castes de personnes dans la société. Il y a les hybrides qui passent à peu près la moitié du temps dans la réalité et la moitié dans le virtuel. Et les vivants qui, pour diverses raisons, ne se connectent jamais. Et on suit un personnage principal incarné par Mike Doped, qui s'appelle Nash dans le film, et qui est une sorte de détective privé qui bosse pour une des corporations qui fournit ses réalités virtuelles et qui est chargé d'infiltrer un groupe de terroristes qui vient de tuer des joueurs en ligne et de les exterminer. Voilà.
Alors, présentez-vous. Quel rôle vous avez dans le film ?
Alors, donc, moi, Maximilien Poulain, je joue le rôle de Morel, un hacker qui est également le beau-frère du personnage principal et vers qui il se tourne dès qu'il est un petit peu dans un cul-de-sac, ce qui m'amène un moment à faire face à quelques problèmes.
D'accord.
Zoé Corafas, je joue le rôle de Dalwin, qui est, disons, la copine virtuelle du rôle principal Nash.
Et donc moi, bonsoir, Jörn Hegel, j'interprète l'agent d'Interpol Stilson, qui va donc essayer d'attraper tous ces vilains terroristes qui essayent de libérer le monde.
Et moi, je suis William Inesta, je suis donc le co-animateur de cette animation, avec cette émission, avec Patrick Nadjar. Enchanté de vous retrouver tous les trois. Alors moi, je suis très content de vous retrouver parce que c'est la troisième fois. Jorgen, c'est la première fois que je te rencontre. Je l'avais vu il y a un an dans un court-métrage qui m'avait assez surpris dans son jeu, dans son interprétation et puis dans l'univers du film. J'ai vu Virtual Revolution il y a plusieurs semaines, je l'ai vu deux fois parce que je me suis dit, un film comme ça, il faut le soutenir. C'est un film français indépendant. Le réalisateur qui, hélas, n'est pas parmi nous, Guy Roger Duvert, dans ce moment en train de préparer attention spoiler la version série. Non, c'est pas une surprise pour vous les invités, vous le savez, c'est pour vrai. Les auditeurs, donc les auditeurs, sachez que ce film que vous pouvez voir à Paris dans trois salles, hélas, parce qu'à Paris ces places sont chères
et puis ce qui paraît normal parce que le film est là depuis 5 semaines donc
ouais,
il ne peut pas rester dans autant de salles.
Mais ceci
évidemment.
Dit, il fait de bonnes entrées. Ceci dit, absolument. Il marche, les salles continuent, poursuivent encore leur programmation. Alors donc, je vous ai rencontré il y a 2-3 semaines et c'était un plaisir de vous rencontrer parce qu'en plus, le film, du coup, on vous voit jouer, on vous rencontre, on discute avec vous. Finalement, c'est peut-être l'occasion pour moi aussi d'en savoir un peu plus sur vous, Zoé. Je vais commencer par toi,
oui.
Zoé Corafas,
oui,
donc jeune actrice. Donc je sais que du coup tu as joué, tu as été sélectionné au casting. Alors est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé pour toi, l'arrivée dans ce film ?
Oui, bien sûr. Moi j'ai passé un premier casting au mois de novembre. Donc c'était un an avant le tournage.
Donc novembre de quelle année ?
Du coup le tournage c'était en 2015.
Tu as passé le casting en 2014. Après,
c'est ça, j'ai donc passé le casting en 2014. Merci beaucoup Maximilien.
Avec plaisir.
On reviendra pour toi Maxime quand on aura quelques petites informations.
C'est
voilà.
Ça, il est toujours voilà. Là pour,
ouais, merci,
pour donner un coup de main.
Merci.
Donc je l'ai passé en donc un premier casting en novembre qui s'était très bien passé et j'ai passé ce qu'on appelle un callback, donc un deuxième casting c'était donc au mois de janvier, c'est bien ça, aussi bien c'est janvier, c'était le jour des attentats. C'était en janvier, non, le Charlie Hebdo ?
Oui,
oui.
C'est ça, c'était le jour des attentats. Journée complètement incroyable pour moi, dans le sens où, effectivement, je venais d'avoir une super nouvelle parce que c'était la première fois que je décrochais un rôle dans un long métrage. Et je sors du casting, c'était à République. Je sors du casting et je vois les gens dans la rue effondrés. Et je comprends pas ce qui se passe. Et donc, j'apprends la nouvelle et voilà.
Oui, terrible événement. Du coup. pour la suite, ce qui s'est passé. Donc, à partir du moment où tu as été sélectionné, comment s'est passé ensuite pour toi le tournage, ton rôle en lui-même. Alors, est-ce que tu peux définir un peu plus aussi le rôle que tu avais dans le film, hein?
Alors, pour répondre à tout ce que tu viens de dire, parce qu'il y avait plein de choses. Donc, comment ça s'est passé? On a eu, donc, moi pour ma part, j'ai eu 5 jours de tournage en fin. C'était la fin du tournage. Ils avaient commencé au mois d'août.
Et ça se passait où, le tournage?
Alors, ça se passait, on a eu deux lieux. On a eu un lieu, c'était le fort de Cormeilles. Et l'autre lieu, c'était dans le 15e. C'était un sorte de... Comment ça s'appelle? C'était un...
Souterrain,
ouais.
À Ivry?
C'est Ivry, merci. C'était pas dans le 15e, t'as raison. Absolument. Ivry. Et c'est... Ouais, voilà, c'est un lieu qui... C'est un peu comme des catacombes, en fait, qui est totalement improbable. C'est-à-dire que quand on marche dans la rue, on saurait jamais que c'était là, sauf si on nous avait dit, parce qu'il y a une toute petite porte, un peu comme la... Comme une porte de Hobbit, quoi. et si on sait pas...
Le tournage a été difficile?
Le tournage n'a... Enfin, pour ma part, n'a pas été difficile, parce qu'en même temps, je pense que j'étais déjà tellement heureuse d'être là et tellement contente de pouvoir participer à ce film. Après, ce qui était assez... Enfin, ce qui s'est passé, je pense que c'est au niveau des costumes et au niveau de la chaleur et de la... il y a eu un petit bug, si j'ai bien compris, à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en fait, les scènes qui... avec Nash, où il porte son énorme manteau, tout ça, ont été tournés au mois d'août, donc lui il crevait de chaud, et puis après donc les scènes avec nous où moi je portais vraiment rien, quoi, ont été tournées
en hiver,
enfin en novembre, quoi, et voilà. Mais bon, moi j'étais tellement contente d'être là que ça m'a fait rien, enfin j'ai pas senti le froid, quoi.
Voilà. Comme on dit, c'est que du bonheur.
Ouais, exactement. Et donc pour définir un peu plus le rôle, le personnage plutôt de Dalwin, donc bah, en fait finalement avec Guy Roger on a beaucoup discuté de ce personnage, parce que au final on n'en sait pas grand chose. On sait juste qu'elle a une relation avec le personnage principal, avec qui elle semble être proche, et voilà, ils sont ensemble, mais on n'en sait pas plus, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment qui est derrière. Donc Guy Roger m'a quand même laissé pas mal de liberté là-dessus pour définir son histoire, chose que j'ai faite évidemment, dont enfin j'en ai parlé pour être sûr qu'on était quand même sur la même longueur d'onde.
Non, bien sûr.
Mais oui, je me suis fait toute une histoire de qui c'était, qui était derrière ce personnage, qui l'a contrôlé finalement. Et oui, donc. Je crois que c'est tout en fait, mais
voilà. Oui, c'est déjà bien.
Voilà. Mais merci. Et du coup, on peut découvrir du coup le rôle, ton rôle de composition dans le film Virtual Revolution, qui est encore à l'affiche.
Oui.
Yoren.
Oui.
Yoren, je voudrais que tu... Oui, je te frustre, Maximilien.
Ah non,
je...
pas du tout. Non,
on le garde pour la fin.
Au contraire.
Voilà, on garde le meilleur pour la fin. Moi, ce que je voulais savoir, c'était du coup comment toi, tu es arrivé sur le film, et est-ce que tu avais eu connaissance de ce projet parce que tu avais déjà eu une expérience par rapport à Jane Butler, mais est-ce qu'il y a une relation
ouais. Je devrais en principe demander à Maximilien comment ça s'est passé, mais effectivement, moi j'avais déjà joué donc avec Jane dans le court-métrage que tu as vu, Bilge pour Conan Blood, réalisé par... Fabio Suarez.
Je vais faire une petite parenthèse pour les auditeurs. Jane Butler, si vous vous souvenez bien, dans les années 80, il y avait une série de science-fiction qui s'appelait V. Et dans V, il y avait une horrible méchante, grande, brune, élancée, qui gobait des souris crues, toutes vivantes. Eh bien, Jane Butler, c'est elle. Et Jane Butler joue dans le film Virtual Revolution. Voilà, je referme ma parenthèse, je te laisse la parole.
Oui, elle n'était pas si horrible que ça. Hein. Tout le monde n'est pas de ce point, de cet avis. Et donc j'avais déjà rencontré Jane donc sur ce court métrage, et ce court métrage, eh bien, Guy Roger il l'a vu aussi, et voilà.
Et
j'ai quand même passé un casting. Maximilien, quand est-ce que j'ai passé le casting?
Monsieur Chiffre,
je crois que c'était en été.
Oui, tu l'as passé en juin, par là, je crois que ça a dû s'étendre jusqu'en juillet.
D'accord.
Mais 2014 aussi?
Non, 2015, juste avant.
Ouais, je suis arrivé tard, moi. Ouais,
Donc, est-ce que tu as eu chaud dans ton costume?
Non, moi ça allait, mais de toute façon c'est toujours pareil. Hein.
Dans tous ces
cuirs. C'est exactement ce qu'elle raconte. On est toujours en slip en hiver et avec des grosses fourrures en plein été. C'est toujours comme ça. Hein.
C'est toujours comme ça.
Mais c'est normal. C'est
le cinéma, on ment, on
triche,
on ne respecte pas les plannings.
Non, jamais. Voilà.
Alors Maximilien, oui, à ton tour s'il te plaît.
Alors moi j'ai rencontré Guy Roget dans un bar en fait, c'est vrai en plus, dans une soirée qui était organisée par un ami en commun, qui organise des soirées entre réalisateurs, acteurs, scénaristes, des soirées très chastes, hein, c'est juste pour qu'on se rencontre et qu'on se constitue un petit peu notre réseau. Puis on a parlé avec Guy Roget de cinéma, de science-fiction, de musique de film, parce qu'il est aussi compositeur. Puis on s'entendait bien, c'est là qu'il m'a dit qu'il allait réaliser son premier long métrage, un projet de science-fiction en anglais. Moi je sortais tout juste de « En mai fais ce qu'il te plaît » de Christian Carion, où j'avais joué un soldat écossais face à Matthew Rhys. Donc je lui ai dit, écoute, si ça t'intéresse, je suis bilingue. Donc, et il m'a dit, oui, ça m'intéresse. Puis il m'a envoyé au bout de la semaine 6 pages d'échange dialogué à travailler pour un casting un mois après. J'ai passé le casting devant lui et Léa Coquin, notre directrice de casting. Quand je suis revenu, j'avais un mail super enthousiaste de Guy Roget, qui m'a dit que normalement il devait voir d'autres personnes, mais qu'en tout cas il avait adoré ce que j'avais fait. Puis finalement, une semaine après, on s'est revus dans ce même bar, juste avant qu'il reparte à Los Angeles, et il m'a dit « Bon, écoute, finalement, c'est toi que je prends ». Donc voilà, j'ai été pris en une semaine et j'ai suivi tout le développement du film depuis le début. C'est pour ça que parfois, sur certaines questions techniques, je vois des regards se tourner vers moi, genre c'était quand.
Mais voilà. Alors, tu nous parleras tout ça après.
Ouais.
Un morceau musical, Muse, tiré de Twilight.
Shoot.
Vous êtes en compagnie de Patrick dans Ciné Forever, l'émission sur le cinéma. Voilà, nous sommes toujours en train de parler du fameux film Virtual Revolution. Alors dites-moi, il a eu beaucoup de prix à travers la planète, comme on dit. Et tu as même reçu un prix il n'y a pas longtemps, je crois.
Ah oui.
Ce week-end. Ouais. j'ai eu ce plaisir-là. D'ailleurs, ça a été une belle radia de prix, parce qu'on en a eu 13 ou 14. Il y en a un 14e qui doit encore être annoncé, si c'est le cas.
Et ça se passait où?
Ça, c'était à Burbank, en Californie, dans un festival qui s'appelle le Z-Fest Film Festival. Mmh. Et qui a une politique très particulière, c'est-à-dire qu'un prix qu'on reçoit n'est pas nécessairement un prix qui n'est pas attribué à un autre film. Mais pour chaque film, ils décident de récompenser telle discipline, tel domaine, etc. Donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec beaucoup de prix et qu'on a été très honorés.
Oui, et puis j'ai vu qu'il y a une ribambelle de festival sur l'affiche. Hein. L'affiche est très belle déjà.
Merci.
Et puis il y a plein de lauriers partout là. Je me demande s'il y en a pas certains qui ont été enlevés, tellement il y en a déjà.
Exactement. Et avec ceux qu'on a eu depuis, oui, ce serait très problématique pour la suite si on devait tous les mettre. Mais on va pas se plaindre.
Sinon, vous faites une nouvelle affiche.
Ouais.
Avec une nouvelle cover et puis vous continuez avec les lauriers autour.
Plein de prix, hein. Le poster en tout petit au centre. Ouais.
Alors, racontons un peu comment s'est passé le film, le tournage, tous les côtés techniques de la chose, comme on dit, s'il te plaît.
Ben, ça a été une sacrée entreprise à mettre en mouvement, parce que c'est vrai que c'est un film avec un budget relativement modeste. Hein, on est pour tout, post-production incluse, autour de 1,2 million. Voilà.
Donc, ça n'a rien du tout.
Non, c'est déjà pas grand chose pour faire un film, et pour faire un film de cyberpunk en France, sans subvention, sans rien, c'est très compliqué. Donc, la chance qu'on a eue, c'est qu'à tous les niveaux, techniques ou artistiques, tout le monde a été extrêmement
généreux, on va dire.
Ouais, sur le même navire. Voilà, personne ne comptait ses heures, et voilà, tout le monde a très bien bossé, y compris notre équipe américaine de post-production, qui pourtant bossait pas pour ses tarifs habituels, quoi. Et donc voilà, on a eu la chance d'être pris dans une vraie énergie, un engouement, une envie de servir le projet de Guy Roger.
Il faut préciser que le film est en anglais.
En anglais, oui, pour des raisons diverses et variées, et notamment thématiques. Hein. On vit dans un monde où tout le monde ne parle plus qu'anglais à cause de cet essor des réalités virtuelles, notamment, et du fait que c'est devenu. La France fait partie d'une fédération européenne. Donc voilà, il y a eu un effondrement des cultures pour tout un tas de raisons. Et donc les gens ne parlent qu'en anglais. Oui.
Anglais c'est sous-titré quand même.
En anglais,
oui,
sous-titré,
bien sûr. Heureusement pour les gens. Voilà. Mais c'est quand même incroyable de faire un film de science-fiction en France.
C'est pas facile tous les jours. oui, parce qu'il faut se frotter alors que ça fait partie de notre culture, hein, la science-fiction. Il faut désormais, au 21e siècle, se frotter à tout un tas d'administrations qui n'y croient pas, qui se disent que ça ne nous appartient pas, qu'il vaut mieux laisser les Américains faire. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça qu'on doit le faire avec des budgets aussi modestes. Alors que, oui, en effet, on est le pays de Jules Verne, de Barjavel, de Moebius, de Valérian, de Méliès, évidemment, Méliès. Au cinéma. Et puis, on a eu un super article d'un blogueur qui s'appelle Stéphane Chin, qui a fait une critique très positive. Il était très enthousiaste sur le film et qui est revenu jusqu'au XVIIe siècle en littérature.
C'était une sacrée critique.
Ouais, c'était un beau pavé, mais très intéressant. Et en effet, ça fait partie de nous, ça fait partie de notre ADN et de celui de notre cinéma. On a toujours eu des films de science-fiction, même dans les années 80. Alors, c'est plus ou moins heureux, hein. Mais on a toujours eu ça et maintenant il faudrait presque s'en excuser. Donc c'est vrai que c'est des projets difficiles à monter et que s'il n'y a pas une équipe passionnée qui a vraiment envie de le faire derrière, c'est potentiellement très dur.
Mais c'est carrément incroyable le film parce qu'avec les moyens, il y a quand même des scènes carrément à tomber par terre.
Ouais,
et comme dans les grands films de science-fiction, on va dire. Hein.
Ouais.
Et c'est un mélange, ce film. On retrouve de tout, hein, puisqu'il y a de l'heroic fantasy, de la science-fiction.
Du post-apo sous influence nippone.
Voilà, des robots qui tirent dans tous les sens.
L'heroic fantasy, un dragon extrêmement bien fait.
Ouais.
Il était d'ailleurs pas mentionné dans le script, donc c'était vraiment une surprise de Guy Roger. J'ai été le premier surpris quand j'ai vu ce dragon.
On n'a pas pu inviter le dragon ce soir.
Non. Il a pris la grosse
tête. On a déjà trois stars du film quand même, c'est déjà beau. Et puis le dragon, il aurait du mal quand même à pouvoir parler dans le micro, ouais. Peut-être.
En anglais sous-titré en plus.
Voilà. C'est vrai que ce sont les sous-titres.
Comment ça se fait que ce metteur en scène a eu cette idée-là? Parce que c'est assez fou.
Alors, Est-ce que c'est moi qui m'y colle ou
Tu le racontes tellement bien.
Donc en fait, Guy Roget a eu l'idée du script. Ça a commencé à germer en 2005. Guy Roget, c'est un mec qui est fasciné par la science-fiction, par les jeux vidéo, par plein de choses. Enfin, comme je dis souvent, son cerveau est une sorte de disque dur qui contient un nombre incalculable d'informations. Et en 2005, il s'est intéressé à un article sur le jeu EverQuest 2, qui est un jeu en ligne, où il était écrit que 25% des joueurs de jeu accordaient plus d'importance à leur avatar que dans leur vie, qu'à leur vie réelle, en fait. Donc, il s'est dit, avec l'évolution logique de la technologie vidéoludique, dans quelques années, quand on sera vraiment dans la réalité virtuelle, on estime que c'est pour 2030 que la réalité virtuelle sera en termes de perception aussi réelle que la réalité. On n'aura plus juste 25% de gens qui accorderont plus d'importance à leur avatar qu'à leur vie réelle. Donc, à partir de là, l'idée a germé, ça a fait son chemin, et en juin 2014, en tout cas, il avait finalisé le script. Donc je ne sais pas exactement sur combien de temps il a écrit, mais tout part de 2005.
D'accord, musique maestro. De Bernard Herrmann, bien sûr, 1959. Et mon ami William va parler du côté humain du film.
Oui, j'ai des questions sur vos parcours, parce que ça m'intéresse de savoir quand on est dans ce milieu-là, par quoi on commence, et est-ce qu'on se forme, est-ce qu'on est dans le pied tout de suite, dans le bain tout de suite. Zoé, comment ça a commencé pour toi,
Alors, pour moi, j'ai un peu, disons, baigné dedans. Mon père est comédien, donc J'ai grandi sur les tournages, voilà, et pas que sur les tournages, sur, mon père faisait aussi du théâtre. Donc voilà, j'ai d'abord observé, puis je me suis entre guillemets, hein, rebellée, c'est-à-dire je souhaitais être chanteuse et non comédienne. Donc c'était ma façon à moi de me rebeller. Ah non, je ne serai pas comédienne. et finalement j'ai toujours fait des cours de théâtre, des cours de chant, de la musique. Voilà, j'ai toujours été là-dedans. Et puis j'ai commencé les écoles, écoles et cours et stages. Et c'est là où finalement je me suis rendu compte que je pouvais plus lutter, quoi.
C'était ta vocation au final.
C'était dans mon sang et je pouvais pas vraiment y faire grand chose.
Donc du coup tu as chopé le virus étant petite et tu es accro.
Ouais,
voilà,
c'est ça.
D'accord. Et tu vas continuer donc, tu as des projets en ce moment, qu'est-ce qui...
Alors actuellement j'ai un film dans lequel j'ai tourné avec mon père, dans lequel je joue sa fille, en Grèce. C'est un film grec, la réalisatrice s'appelle Clio Fanouraki. C'est un film crétois, qui est un très 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 joli film. Donc pour l'instant il a fait sa première dans un festival, le festival de Thessalonique, et puis on va voir maintenant où est-ce qu'il va aller avec ce film. J'espère que ça va continuer. Après, au-delà de ça, j'ai pour 2017 des projets théâtre et un projet de court-métrage produit avec en partenaire de jeu Albert Delpy, le papa de Julie Delpy.
Là, en tout cas, on te souhaite justement que ça puisse aboutir avec tous ces projets. Et du coup, Jochen,
oui.
Comment es-tu arrivé au métier d'acteur ? Raconte-nous.
Voilà, au métier d'acteur, mais c'était il y a longtemps. Hein.
C'est il y a longtemps ?
Eh oui.
Raconte-nous.
Non, mais moi j'ai commencé par le théâtre, donc déjà le métier d'acteur aussi. Hein. Moi je ne fais pas de distinction. Voilà, donc j'ai joué longtemps au théâtre. Et en 2009, je crois, j'ai rencontré Fouad Benhamou, qui cherchait un Allemand pour faire le teaser de son premier long-métrage. Donc j'étais là-dedans, et le long-métrage s'est fait 2 ans plus tard, donc c'était mon premier long. Voilà, au même moment, à peu près, j'étais engagé sur la série Un village français. Et puis voilà, ça m'a permis de trouver mon agent, Denis Plana, qui maintenant défend aussi les intérêts de Maximilien. et voilà, puis il y a eu pas mal de films et de belles choses depuis.
D'accord. Maximilien, comment toi, ta carrière a commencé ?
Alors moi, j'ai chopé le virus du cinéma, du moins le virus conscient, un dimanche matin en regardant Running Man avec Arnold Schwarzenegger, qui est donc devenu mon héros intemporel depuis. Ensuite, 4 ans plus tard, en milieu scolaire, j'ai eu une initiation au théâtre. Et puis là, ça a fait sens, en fait. Donc j'ai continué le théâtre dans diverses compagnies là où j'habitais, près de Lille. Je les ai couplés avec des études d'anglais qui m'ont amené à avoir une maîtrise d'anglais d'ailleurs en fac et à rejoindre la compagnie anglophone de la fac. Et ensuite, j'ai vraiment voulu aller tenter ma chance à Paris, ce qui me titillait depuis un moment. Donc ensuite, j'ai bien galéré pour rencontrer des gens, me faire connaître, faire des cours, avoir une bande démo, avoir un premier agent. Et puis, finalement, chaque étape m'a mené, par exemple, jusqu'à Virtual. Donc voilà.
Et quand on est dans le milieu du cinéma, quand on est comédien, comment est-ce que vous gérez chacun de vous votre façon de travailler, votre rapport professionnel et puis votre vie de tous les jours? Comment est-ce que vous appréhendez justement votre façon de travailler ? Zoé, par exemple.
Je suis pas certaine d'avoir compris la question.
Quand toute l'idée que tu te fais de ton métier d'actrice, et quand tu vas au casting, comment est-ce que tu t'organises? Comment est-ce que tu as un agent, par exemple?
Oui.
Oui. Non, mais c'est ton agent en fait qui tu as souvent des entretiens avec lui, ou elle.
Oui, tout à fait.
Et du coup, comment est-ce que ça s'organise en fait ? Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment est-ce que s'organise votre, comment est-ce que vous organisez votre métier, qui n'est pas un métier compris entre quatre murs de 9h à 18h comme la plupart des gens. Voilà, c'est ça qui est intéressant.
Bah, je pense que ça s'organise pas justement. Hein. c'est ça le truc.
On s'adapte. Surtout.
C'est ça. Il faut vraiment se trouver des moyens de s'adapter. Et je pense que c'est, enfin, moi pour ma part, hein, je pense que c'est vraiment vivre au jour le jour. Et enfin chaque jour est différent et voilà être disponible au maximum pour pouvoir venir passer un casting au dernier moment quand on nous appelle le jour même ou la veille et puis on nous donne 15 pages de texte à apprendre et puis bah, oui voilà et puis voilà on le fait quoi parce que on le fait parce qu'on aime ça je pense que il y a pas d'autre raison hein on fait pas ce métier par hasard on fait pas ce métier en tout cas pour ma part pour le star system, enfin pour être voilà, pour être une star, on le fait parce que on aime ce métier, parce que on aime défendre des rôles, on aime raconter des histoires. Donc voilà, on s'arrange dans nos journées pour pouvoir avoir cette opportunité là de passer des castings. Et effectivement, c'est les agents. Moi, c'est mon agent qui s'occupe de ça.
Déjà le goût de l'aventure au quotidien, sans être devant la caméra.
Complètement. Ouais.
C'est sensiblement la même chose pour vous, messieurs.
Bah oui, d'autant qu'on a le même agent, donc on fonctionne un peu pareil.
Ah oui, c'est vrai.
Vous êtes sur les mêmes rôles, non ? Sur le même rôle ?
Non, ça, il fait attention à ça quand même. Ouais. Mais oui, moi, l'autre fois, j'étais en vacances avec mes enfants, tout ça, puis il m'appelle, il me dit, bon, tu peux m'enregistrer un casting, parce qu'on fait ça pour les trucs qui se font à l'étranger, on se filme nous-mêmes en casting. Alors, tu peux me faire ça pour dans 3 jours ? Je dis, oh, mais je suis en vacances, j'ai personne pour me donner la réplique. Alors, j'ai fait ça avec mes enfants, l'iPhone, etc.
On va pas se plaindre, hein. Il bosse beaucoup, mais parfois même il est dur à suivre. Mais c'est vrai qu'à un moment il devait aller justement avec Jörn à Berlin pour la Berlinale.
Ouais.
Et moi je commençais chez lui et c'était un changement de rythme hein, vraiment par rapport à mon agent précédent. Et donc là je me suis dit je vais souffler un peu ce week-end. Il m'a appelé dès le lendemain, il m'a dit oui il faut absolument que t'envoies ça à ceci, machin, il veut te rencontrer, voilà. Donc c'est un gros bosseur quoi.
Donc musique. Donc vous venez d'écouter John Carpenter, son dernier album, puisque maintenant il fait que des albums musicaux. Et n'oubliez pas que ce soir, il est en concert au Grand Rex. Donc c'est quand même un gros événement, c'est la première fois qu'il passe. Et on essaiera de vous raconter un peu tout ça. Zoé, raconte-nous une anecdote, puisque ton père a travaillé sur la suite. Et c'est pas donné à tout le monde.
Ouais.
Alors raconte-nous un petit peu.
Sur le tournage de Los Angeles 2013, effectivement, dans lequel mon père jouait un rôle un peu d'un Che Guevara-esque, un personnage un peu Che Guevara-esque. J'étais présente sur le tournage pour la scène où il se trouve dans le Secure Trussell qui se trouve dans l'hélicoptère. Donc j'ai vu l'hélicoptère, je me suis assise même dans l'hélicoptère.
Ouais.
Et je me souviens avoir rencontré donc Kurt Russell sur le tournage. Et je me suis faite la réflexion, finalement, je l'imaginais plus grand que ça, en fait.
Mais, ça arrive souvent, ça.
C'est drôle. Il était adorable, il était très gentil.
Tu sais que c'est incroyable, parce qu'il y a des gens qui rêvent d'être sur le tournage, de rencontrer Kurt Russell, John Carpenter.
J'en avais aucune conscience.
T'as des millions
quoi.
De jaloux, là, actuellement.
Mais j'en avais vraiment aucune conscience. Après, moi, j'étais très petite et tout. Pour moi, c'était un jeu, quoi. J'ai quel âge actuellement?
Non,
j'avais
à l'époque.
Quel âge je pense que je devais avoir 8-9 ans,
ouais,
quelque chose
comme
ça.
Assez jeune.
Ouais.
Et tu as fait d'autres tournages?
Si j'étais sur d'autres tournages, des tournages comme ça, non, mais après, oui, j'ai fait plein d'autres tournages. Enfin, j'ai fait tous les tournages de mon père quasiment. Ouais.
Quelle belle expérience alors.
Dur vie. Ouais.
Oui, c'est ça, très dur. Très dur. non, vraiment une très très belle expérience. Ouais.
Oui, c'est une belle transition parce que donc ton papa, c'est Georges Corafas.
Oui.
Donc voilà, je l'ai découvert en fait sur Wikipédia.
C'est vrai.
Je ne savais pas du tout que tu étais la fille de Georges Corafas. Donc du coup, je suis flatté.
Qui est un amour d'ailleurs. J'ai fait sa rencontre récente et c'est un homme adorable.
Donc c'est gentil.
Et ma mère est amoureuse de lui.
Je crois qu'il va y avoir.
Il y a quelques problèmes à la fin de l'émission, je crois.
Qu'il va y avoir une.
Non, Zoé, t'es déjà
un afflux de masse sur Wikipédia ce soir.
Ouais, c'est ça.
Donc, Georges Corafas avec deux R. Moi, je voulais savoir, étant donné que Virtual Revolution est en anglais, que vous parlez en anglais, vous savez parler plusieurs langues, au moins l'anglais. Zoé, tu as la double nationalité franco-américaine et tu es aussi d'origine grecque.
C'est ça, c'est exactement ça. Ah. Bravo.
Donc, du coup, un sacré mélange. Hein.
Sacré ouais. Mélange. Et du coup, est-ce que tu as une vie d'actrice à l'étranger?
Écoute, ça commence, c'est-à-dire que ça commence petit à petit avec donc ce film que j'ai fait avec mon père, qui est donc un film grec. Donc ça commence à se faire en Grèce aussi. Après, les États-Unis, pour le moment, pas encore tout à fait, mais c'est une possibilité. Étant donné qu'effectivement j'ai la nationalité, si jamais l'opportunité se présente, je pense que c'est assez facile pour moi d'aller là-bas travailler, quoi.
T'as jamais fait de casting en anglais, donc ?
Ah si, j'en ai fait plein. plein.
Jochen,
oui.
Tu as une activité professionnelle à l'étranger ?
Ouais, mais le concept d'étranger, pour moi, c'est un peu particulier.
Oui, alors, parce que en dehors des frontières francophones.
Ouais, d'accord. Parce que moi-même, je suis allemand, mais j'ai grandi en France. Donc, qu'est-ce qui est ici, qu'est-ce qui est ailleurs, je sais pas. Moi, j'ai un agent en Espagne. C'est n'importe quoi. J'ai tourné un film en Allemagne cet été. Je suis quand même essentiellement sur des productions françaises, mais oui, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de jouer aussi bien en anglais, en français qu'en allemand. Donc.
D'accord, c'est intéressant de savoir quand on connaît l'activité cinématographique en France et la réalité des métiers en France. Comment est-ce que vous avez perçu du coup la réalité du cinéma pour les professionnels à l'étranger, hors des frontières francophones? Jochen, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as perçu?
Bon, le métier d'acteur, moi j'ai l'impression que c'est le même quand même partout. Après, de toute façon, même en France, les gens ont un petit peu des façons de travailler un peu particulières. Il y en a qui sont plus metal acting, d'autres beaucoup moins. C'est pareil. retrouver ça en Allemagne ou n'importe où. Non, c'est peut-être les ambiances sur les tournages qui sont pas les mêmes.
Oui.
Voilà, on passe moins de temps à la cantine qu'en France. mais c'est marrant. Moi, c'est pour ça que j'aime bien tourner en France, parce que j'aime bien manger.
La bonne cuisine française.
Ouais, mais sur le. Après, il y a la bonne cuisine aussi dans d'autres pays. Moi, le film que j'ai fait en Allemagne cette année, on avait une cuisine géniale. Mais les gens n'y vont que pour s'alimenter. C'est-à-dire, il y a coupure déjeuner. Chacun va s'attraper une assiette, se remplit son truc et va bouffer dans son coin. Un quart d'heure plus tard, ils ont fini. Et on ne se parle pas. Alors que en France, c'est un lieu très très important d'échange. Hein. Oui. On parle avec le metteur en scène, avec d'autres gens, etc. Et il se passe des choses lors du déjeuner. Ailleurs, non. On s'alimente.
On a d'ailleurs très très bien mangé sur le tournage de Virtual Revolution.
Ah, c'est oui.
C'est pour ça que vous voulez peut-être faire la suite, non ?
Ouais, c'est ça. Avec les mêmes, on recommence.
Est-ce que le metteur en scène en parle de faire une suite à Virtual Revolution ?
Là, du coup, c'est par le biais de la série. Surtout, la première saison devrait se passer avant le film et la deuxième après, avec le film qui sert de passerelle narrative entre les deux saisons. Et son but, c'est de reprendre, oui, la même équipe. Pour les personnages qui peuvent être là, les mêmes acteurs, reprendre la même équipe technique, tout ça. Donc oui, c'est en développement actif en ce moment. Oui.
Ah, en plein évolution.
Oui, ça avance.
Mais vous avez lu des choses dessus ?
Non, pour le moment. C'est en écriture.
Il y a la Bible qui est écrite et un pilote qui devrait nous être présenté, j'imagine, d'ici le début de l'année prochaine, à mon avis. Et voilà, mais c'est encore en cours de développement et voilà, mais ça avance très très bien, visiblement.
Musique Maestro avec Rambo.
Oui.
Compagnie de Patrick dans Ciné Forever, l'émission sur le cinéma. Voilà, nous sommes toujours avec nos invités de Virtual Revolution. Maximilien va répondre à William.
Oui, Maximilien, suite et fin de ma question, idem comme pour les autres, est-ce que as-tu une activité hors les murs de la France ?
Alors, pour le moment, je joue de plus en plus le personnage anglophone, donc américain, écossais, britannique ou français, mais qui parle anglais avec un accent britannique dans Virtual. Mais pour le moment, c'est surtout, enfin, j'ai passé des castings pour des productions étrangères.
certains dont j'attends des réponses. Et c'est certains que je n'ai pas eu, parce que ça arrive aussi. Hein, c'est un truc qu'il faut accepter quand on est acteur. Et voilà, par contre, oui, j'ai déjà bossé avec des Américains. Voilà, et c'est vrai, oui, les ambiances sont pas toujours forcément pareilles. C'est vrai que les Américains sont surtout très très sympas quand le tournage est terminé. Très convivial et enfin très conviviaux, mais c'est vrai que pendant le boulot c'est très boulot. En France c'est plus artisanal dans la façon de faire, mais tant que le résultat est bon à la fin finalement.
Et puis de toute façon il y a des différences de tournage, puisque c'est tourné en son direct chez les Américains et en post-prod pour la France, quoi.
C'est
évident.
Ouais, ça dépend des budgets des films et tout, mais c'est vrai que c'est d'autres organisations, c'est d'autres façons de concevoir un tournage et tout ça, quoi.
Et à partir du moment où le film, on en parlait tout à l'heure, qui a reçu pas mal de prix dans le festival, vous avez fait la promotion dans ces festivals aux États-Unis ?
Zoé, oui, je crois.
Ah oui, alors moi j'étais présente effectivement au tout premier festival qu'on a fait, qui était Dances with Films, qui était à Hollywood. C'était génial, c'était au Chinese Theater. Donc ça, c'est le rêve, quoi, de pouvoir voir le film pour la toute première fois. Je marchais sur le boulevard d'Hollywood et puis je vais voir mon film. C'était assez hallucinant comme expérience, mais c'était génial.
C'est déjà un petit peu la rançon de la gloire, non?
Un petit peu, par rapport
à Virtual Revolution.
Ouais,
avoir eu le mérite de porter à bout de bras un film comme celui-ci. C'est vraiment dommage que le réalisateur ne soit indisponible, parce que j'aurais voulu vraiment lui poser plein de questions à ce niveau-là.
Ouais, il aurait fallu plus d'une heure.
Je sais que c'est un gros bavard, mais du coup, tu t'es fait des contacts là-bas, puisqu'on t'a remarqué, ou peut-être en...
Alors oui, en fait, j'ai rencontré des producteurs finalement français, mais qui habitaient aux États-Unis, avec qui j'ai échangé des cartes.
Ils sont très cartes aux États-Unis.
Ils sont très cartes. Heureusement, j'étais préparée. J'avais fait mes cartes avant.
Je l'ai pas encore.
Et oui, voilà. Après, on verra. De toute façon, on construit pierre par pierre.
Oui. Ouais. C'est un milieu de contact.
C'est ça.
Mais c'est vrai que ce film, j'ai l'impression, pour toi, Yoran, enfin pour nous tous, on nous propose des choses depuis que ce film a été vu, et c'est vrai qu'il y a une telle curiosité autour de ce projet qu'on nous propose des choses. Moi, on m'a proposé divers trucs, il faut qu'ils se fassent.
Mais toujours dans le domaine du fantastique, de la science-fiction,
du cinéma. Alors c'est varié ensuite, il y a des projets plus ou moins dramatiques, plus ou moins genre, mais c'est vrai qu'en tout cas ça a été une belle vitrine pour nous, avec des rôles un peu conséquents, et voilà, et ça a permis c'est l'un des aspects les plus durs du métier de comédien, c'est-à-dire être vu et être évalué, et là voilà, c'est vrai qu'on a eu quand même notamment tous les trois des rôles avec de très belles scènes et qui ont permis à des gens de s'intéresser un petit peu à nous.
Et quel genre de rôle en fait vous faites en général, et quels sont les rôles qui vous inspirent le plus? Ça, c'est la question qui tue, je sais, mais ça m'intéresse de vous la poser, parce que oui, Yoren fait une tête, il sue à grosses gouttes à côté de moi. Tout va bien, Yoren.
Oui,
mais je vais commencer par toi.
Bah oui, voilà. Commence par moi, parce que c'est plus simple. Parce que bon, comme je l'ai déjà précisé, je suis né en Allemagne, je suis allemand, c'est ma langue maternelle. Alors qu'est-ce qu'on va bien pouvoir me proposer comme rôle?
Oui, Yoren, qu'est-ce qu'on te propose?
Eh bien, j'ai fait beaucoup de films d'époque où je porte une casquette avec une tête de mort dessus et où je suis très méchant.
Le Punisher?
Donc non, pas celui-là, voilà. Donc ouais, il y a quand même une grande partie des rôles que j'ai joués, c'est des rôles de soldats allemands, de nazis, etc. Oui. Tout ça. Mais j'aime bien, hein, c'est très drôle. Non, c'est vrai, j'aime beaucoup.
J'aime bien la façon dont tu
l'as dit. Non, mais ouais.
15 rôles, c'est ça, 15 rôles de...
J'en ai, ouais, pas, je crois que j'en ai une quinzaine, ouais. Wow.
Mais d'ailleurs, dans Virtual Revolution, il y a un petit côté soldat allemand, non? Un peu...
Ouais.
C'était une question que je voulais te poser tout à l'heure, et puis...
Je pense que c'était pas voulu quand même. Enfin, j'en sais rien, je crois pas. Mais c'est vrai qu'il a un long manteau noir.
Il y a un aspect un peu Gestapo.
On peut penser un peu Gestapo, ouais, mais moi je le vivais pas comme comme le méchant du film. Hein. Tout le monde pense que c'est le méchant du film, mais non, c'est pas.
Oui.
Non, les autres. Hein.
Non, de toute façon, ça reste un film noir, donc tous les personnages sont un peu ambigus.
Oui. D'ailleurs, enfin, ce serait intéressant de redire un petit peu les salles qui projettent le film, parce que j'invite vraiment. C'est assez exceptionnel. qu'un réalisateur porte à bout de bras un projet sur deux longues années sur ses fonds propres. Mmh. Ça, il faut bien le dire, c'est quand même quelqu'un qui s'est vraiment sacrifié.
C'est un vrai pari.
C'est un vrai pari, c'est très courageux. Du coup, Guy Roger, toi qui m'entendras sur cette onde web radio dans le futur, sache que félicitations.
Voilà. Je crois qu'il te remercie.
De toute façon, il faudrait dire à peu près où se joue le film, parce qu'il a une nouvelle salle en province, si j'ai bien compris.
Oui, on a le loisir d'être quand même très soutenu par le réseau CGR, qui est le deuxième plus grand réseau d'exploitants de France, et qui est le seul réseau qui s'est vraiment intéressé à nous. On avait fait ils nous avaient fait une avant-première à Pau et une séance spéciale aussi le 18 octobre à laquelle j'assistais à Poitiers, et ça a cartonné. On était devant 160 personnes à peu près. Et on est resté jusqu'à 1h du matin avec le public pour répondre à leurs questions, donc ils étaient quand même curieux. Et donc, comme ils ont eu beaucoup de demandes pour avoir à nouveau le film, ils le passent. Il y a peut-être d'autres CGR qui vont le passer bientôt aussi, donc ça c'est super. Et sinon à Paris, c'est le Publicis sur les Champs-Élysées, le Lucernaire à Notre-Dame-des-Champs et le Studio Galande, à Saint-Michel.
Donc il faut courir aller le voir, parce que je ne sais pas s'il va rester combien de semaines encore.
On en a quand même déjà à la cinquième semaine, c'est ce qui magnifique. Est pas mal pour un film qui ne devait même pas sortir du tout.
Et on nous a mis assez de bâtons dans les roues pour que ce ne soit pas le cas. Donc là, c'est vrai que c'est une petite victoire. Mais maintenant, oui, si vous voulez le voir, il ne faut plus prendre trop de risques et y aller.
Aller tout de suite.
Dès maintenant, parce que c'est vrai.
Aller dès demain.
Voilà. Il y a des films avec beaucoup plus de soutien en termes de prod et de distribution qui disparaissent en 2 semaines en moyenne à Paris.
Voire moins.
Là, c'est vrai qu'il faut y aller si vous voulez le voir.
C'est vraiment une belle aventure.
Ouais. On peut pas se plaindre ni de l'aventure ni de ses répercussions jusqu'ici.
Et Maximilien ne regrette pas de fréquenter les bars. Donc petit conseil aux comédiens qui veulent rencontrer des réalisateurs. Allez dans les bars.
Voilà, nous allons terminer cette émission. Je tenais à remercier nos 3 invités, William, Abou.
Merci à toi.
Merci beaucoup.
Merci à William.
Et puis
merci.
On espère que si vous faites d'autres projets, d'autres films, vous viendrez en parler ici.
On va se gêner.
Et ça nous fera énormément plaisir de vous revoir.
Oui, je voulais dire que vu que nous sommes des fidèles d'un événementiel qui se déroule à Paris chaque mois, donc c'est Sergio Dovale qui organise sa projection de court-métrage qui fait fureur sur Paris, qui s'appelle « C'est pas la taille qui compte » et qui justement reçoit à chaque fois plus de 300 personnes dans le 5 Comartin. Et la prochaine, c'est le 5 décembre, Patrick.
Ouais, c'est bien.
Voilà. Et c'est aussi
toujours un grand intérêt d'aller voir. Surtout, ce qui est très intéressant, c'est de voir les courts-métrages déjà sur grand écran. Ouais. C'est déjà un beau spectacle, plutôt rare. Et puis, nous avons tous les gens du film qui viennent se faire interviewer à la fin de leur court-métrage et répondre au public.
Et puis, il y a du talent chez les jeunes réalisateurs
français. Il y a du talent. Voilà.
On bosse beaucoup avec certains d'entre eux. Il y a des mecs vraiment hallucinants.
Alors voilà, nous aurons la semaine prochaine Karine des Contes du Grand Guignol, qui est une pièce de théâtre très gore. Donc ça sera assez, chaud, parce que il y a pas que du gore dans le spectacle, mais c'est elle qui vous en parlera la semaine prochaine.
Avec un couteau à la main.
Voilà, un couteau, une hache, tout ce qu'il faut. Bon, tirer du bestiaire d'Hershen Gordon Lewis et de tous les grands du cinéma gore, tout simplement. À la semaine prochaine, merci de nous avoir écoutés.
Merci, à la semaine prochaine.
Au revoir.
Merci, au revoir. Au revoir. Behind.
Vous êtes en compagnie de Patrick dans Ciné Forever, l'émission sur le cinéma.